peu notre vie. Ce matin, nous allons partager aussi, je vais partager un texte. C'est en lien avec ce que nous avons vécu un peu ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être même années, je peux dire. Ça fait un an et demi que ça dure. Ça fait un an et demi que nous savons que nous allons quitter la retraite d'Exerve. Ça fait 18 ans qu'on gère ce magasin. Librairie, commerce équitable. Fin janvier, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées. Ça fait plouf, plouf, plouf. L'une et l'autre face était aussi hyper décourageant parce qu'on vous dit des choses pas faciles. Hein. Par exemple, quelqu'un m'a dit, Franco, 80% du magasin dehors, ça vaut rien. En d'autres mots, ça fait 18 ans que tu travailles là-dedans et 80% de ton boulot ne vaut rien. Merci beaucoup.
Heureusement, il vient pour te sauver.
Mais vous savez que parfois, ça fait du bien. Moi, au fond, je me suis dit, Dieu m'a amené au point de dire, Pierre, qu'est-ce qui est le plus important ? Ton boulot ou moi ? Et franchement, on s'est vraiment replacé devant Dieu et j'ai dû dire au Seigneur, Seigneur, tu es le plus important pour moi et même si le magasin ferme, c'est plus mon problème. Savoir se détacher de ce que je fais, de ce que je vis, avec qui je suis. Vous comprenez la nuance ? Je suis en Christ, enfant de Dieu. Et même si ton boulot semble flancher. Et même si les autres, plusieurs personnes, ne voient pas ce que tu fais. Au fond, le plus important, c'est quoi ? On était en Allemagne pour une conférence. Dimanche prochain, on sera en Alsace, dans mon église d'origine, à Seckendorf. Et un peu pour faire un peu un résumé un peu de notre vie missionnaire. Je suis rentré à la mission à France pour Christ, implantation d'église dans le nord-est de la France, en 75. Ça date. Et alors, au fond, on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie ? Hein ? Vous avez déjà une fois, j'imagine, tous ceux qui partent en retraite se posent la question, mais pour les plus jeunes aussi, se posent la question. Pense, ces 10 dernières années, qu'est-ce que Dieu a fait ces 10 dernières années dans ta vie ? Qu'est-ce qui a marqué ? C'est bien de faire parfois de réfléchir et de résumer ce que je vis. En conclusion, en raccourci, je dirais la leçon, il me semble, la leçon la plus importante avec plus de 40 années de service avec France pour Christ, je pourrais dire le plus important, c'est pas ce que je fais, mais c'est comment je le fais. Il me semble que notre préoccupation est très souvent, Seigneur, ma valeur, c'est qu'est-ce que je fais, hein, dans le monde, hein, combien tu gagnes, quel est ton titre, ingénieur, voilà, je fais plus 10, bac plus 10. Pour nous, c'est souvent, dans le monde, c'est ça, qui je suis, ma valeur. Il me semble que Dieu nous demande beaucoup plus, pose beaucoup plus la question, comment je le fais ? Je peux le faire en ronchonnant, en n'étant pas d'accord. Hier soir, on a encore passé du temps, je ne sais pas combien, une heure, deux heures, avec une jeune de la maison qui ne trouve pas son chemin de vie. On a prié ensemble. Et je lui ai dit, c'est comment tu vis avec Jésus ? C'est pas ce que je veux devenir absolument. Le monde dit plutôt ça, hein. Le monde dit, hein, c'est quoi ton projet de vie ? Mais si je meurs, si je pars, si je quitte Exerve, qu'est-ce qui reste au fond ? Ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien de dire Seigneur, toi, voilà. Et le travail, le magasin, ce que je vis, au fond, c'est ton problème, c'est pas le mien. Je dois m'en préoccuper, oui, mais c'est avant tout sans problème, oui. Donc, en janvier, on avait failli fermer. En janvier, j'ai écrit un courrier à l'expert comptable en posant la question, que faut-il faire pour une cessation d'activité ? Je vous garantis, c'est le genre de courrier que vous écrivez en pleurant. Vous avez consacré 18 ans Et à fond, c'était pas du 35 heures semaine, la semaine, c'était 35 heures de jour. Et miracle, à un moment donné, tout récemment, Shirley est devenue bénévole du magasin, épouse du pasteur Baptiste, l'église Baptiste, d'origine du Brésil. Ils partent au Brésil, elle part au Brésil avec sa famille bientôt là. J'espère qu'elle revient d'ailleurs. Si elle ne revient pas, on continue. Pour le moment. Mais c'est pas une blague, parce que le contrat est signé. Enfin, signé dans le sens que, en location, vous n'êtes pas au courant, peut-être, mais en location professionnelle, il faut, on a, c'est le 369, d'accord? Comme on n'a pas dit aux HLM qu'on arrête, automatiquement, je dis aux HLM que je garde le magasin 3 ans. Si demain j'arrête, j'ai payé 3 ans de loyer. C'est pas du tout comme en privé. En privé, vous pouvez dire, dans 3 mois, je quitte. En professionnel, non. C'est minimum 3 ans. Et si vous oubliez d'écrire, vous payez 3 ans. Même si vous faites faillite, vous payez 3 années. Drôle, hein? Mais c'est comme ça. C'est la loi. Si Shirley ne revient pas, alors on paye 3 ans de loyer. Mais elle va revenir, vous allez le dire. Shirley est venue, bénévole chez nous, elle nous a entendu pleurer, prier, voilà. Et petit à petit, elle a partagé, elle a dit, mais Pierre, il ne faudrait pas qu'il ne faudrait pas arrêter, c'est un peu dommage. La librairie, comme équitable, après, la semaine d'après, elle revient en disant, Pierre, on prie tous les jours pour vous. Une semaine après, avec mon mari, ma famille, l'église, maintenant, on prie vraiment régulièrement, toutes les semaines pour vous. Alors, nous, on a entendu ça, et petit à petit, on a dit, Shirley, tu veux dire quoi? Ça t'intéresse? Petite parenthèse, l'église Baptiste avait dans le temps une librairie chez eux, qui a fermé. D'accord? Alors, j'ai dit, Shirley, tu voudrais prendre des livres et les mettre chez vous là-bas? Tu penses quoi? Et petit à petit, c'est sorti. Elle a dit, non, librairie, oui, librairie et commerce équitable, oui. Le magasin, franchement, je peux vous dire, miraculeusement, en très court, elle a vraiment mordu. Elle est à l'aise. La nuit, quand elle se réveille, elle pense déjà au magasin. Hier matin, elle est passée avec son mari, et elle dit, cette nuit, j'ai une idée. Donc, merci Seigneur. Parfois, Dieu me demande de déposer les choses et de dire, j'accepte quoi que tu fasses, chers amis. Et de temps en temps, miraculeusement, il répond de cette manière. Peut-être qu'il peut répondre d'une autre manière. Je m'étais renseigné, notre magasin est plaque au moins neuf. Souvent, les gens disent, caverne d'Alibaba, commerce équitable, hein, les livres. Mais j'avais déjà fait mon plan, je m'étais renseigné comment le vider. J'avais pas le choix. J'ai pris des renseignements, quoi faire avec des livres, quoi faire un tout. Mais merci Seigneur, voilà. Alors priez maintenant pour Shirley Sotomayor de l'église Baptiste. C'est pas facile non plus pour elle. Elle a de l'asthme, prend en ce moment vraiment de la cortisone, enfin, pas facile pour elle. Au fond, à vue humaine, son engagement, je vous garantis, c'est un coup de folie. Vu sa santé, elle a 3 enfants à la maison, 16 ans, quoi, 14 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, voilà.
9 ans.
9 ans, oui. Mais elle a eu à cœur vraiment, elle dit non, Pierre, cet endroit, vu la quantité d'incroyants qui rentrent, vu ce que s'y passe, elle est de métier de formation, elle a un master en psychologie et elle a un master en théologie. Donc, c'est quelqu'un qui aurait pu prétendre aussi à autre chose. Mais elle a dit, ce qu'on vit ici, dans cet endroit, franchement, non, il ne faut pas fermer. Parce que tous les jours, on a l'occasion de parler avec toutes sortes de personnes. Priez pour elle. Priez pour sa santé et priez pour une équipe qui l'entoure, qui revienne. Oui. Et si vous désirez que le magasin continue, si vous êtes dans le coin ou etc., ou par le stand ici, On a parlé du stand ici tout à l'heure, mais n'achetez pas sur Internet, mais achetez avec elle, voilà. Là où vous êtes, pensez plutôt en projet. C'est vraiment un vrai lieu d'évangélisation. Il y a pratiquement dans les 2000 personnes par mois qui passent, dont 80% d'incroyants. Donc quand quelqu'un rentre chez nous, on ne sait pas du tout qui c'est. Hein. L'autre jour, il y a une chrétienne qui est rentrée, je ne savais pas. Connaissez ma maison et tout. Alors après, elle s'est présentée, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, enfin, vous connaissez la Bible, enfin, le côté. Alors j'ai expliqué à la fille, j'ai dit, oui, mais pour nous, 80% de ceux qui rentrent, c'est non merci. Donc priez pour l'équipe, pour qu'une nouvelle équipe puisse se former autour d'elle. Le Seigneur les encourage. Donc, c'est l'église baptiste qui a repris. Mais il y a encore plein de choses. Donc pour l'instant, nous continuons à plein temps jusqu'à septembre. 1er octobre, normalement, c'est Shirley. Elle n'a pas encore le contrat en main. C'est elle qui reprend. Et puis nous, on va rester bénévoles là-dedans. On verra à quel rythme. En tout cas, on va faire notre possible, vraiment notre possible, pour qu'elle puisse. Quelle est la joie à reprendre. Quand même, il faut quand même dire, un magasin, gérer un magasin, c'est chronophage. Ça prend vraiment du temps. Voilà, donc priez pour l'équipe. Vraiment chouette, très encourageant. Vraiment très encourageant. Lui, au Brésil, il était prof d'école théologique. Et il a eu à cœur. Déjà dans le temps, il m'a raconté, quand ils sont mariés, il a tout de suite demandé à sa femme, tu es prête un jour à quitter le Brésil? C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais lui, il pensait aller plutôt dans les milieux au Portugal, par exemple. Hein. C'est la même langue. Eh bien non, Dieu les a dirigés en France. Ce qui fait qu'il faut vraiment qu'ils apprennent. Mais je trouve qu'ils progressent vraiment très bien en langue française. Il a déjà envoyé, clin d'œil de Dieu, parce que le magasin, il y a aussi un éditeur BLF qui était intéressé par le magasin. Il a déjà envoyé un de ses écrits si BLF veut l'imprimer. Merci Seigneur. Je trouve que les choses se mettent en place. Parce qu'il écrit, il a écrit plusieurs livres en Brésil et il a dit j'aimerais éditer aussi en France. Voilà, donc priez pour le magasin, oui. Nous, on continue aussi d'avoir notre colocation à la maison. On a une grande maison de Besançon. Il y a combien 8 jeunes à peu près qui logent chez nous. Hein? Ouais, c'est ton frère.
C'est son frère, oui.
Donc voilà, il y a des réunions, il y a des fêtes. Vendredi soir, il y a un anniversaire, on a dansé africain. On a ici. Non, c'est chouette. Donc une partie de notre travail, c'est aussi entourer ces jeunes qui sont chez nous, qui nous suggèrent de prière. On sera bien occupés, même à la retraite. Mais on va aussi continuer parce que à faire une tournée dans les églises avec des stands. Qui l'a demandé, si vous voulez bien continuer. Et maintenant, on va ouvrir la Bible ensemble et on va voir un peu l'apôtre André. Et je trouve, on va faire un petit tour avec André. Et je trouve, ça colle bien avec ce que nous avons vécu ces derniers temps. Vivre des choses avec eux.
Juste pour dire si, comme. On sait que notre frère est un petit peu long. S'il y en a qui doivent s'absenter et qui nous quitter en cours de route, vous vous sentez libre.
Voilà. Pas de
même si c'est passionnant.
Merci, merci. Ça sera enregistré. Donc,
d'accord.
La suite, hein.
Non, mais André est très court. Il n'y a pas beaucoup de choses. Premier texte. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris André? Parce que je trouve, voilà, c'est une belle biographie qui va aussi un peu. Souligner un peu ce que nous on vit. On peut vivre des choses fortes et après ça passe. Ce que j'aimerais partager ce matin, c'est ce que tu vis aujourd'hui, le plus important, c'est pas ce que tu peux faire, c'est qui tu es en Christ. C'est ça, je trouve. De quelle manière Jésus-Christ peut me marquer mon cœur, c'est ça le plus important. Le monde me dit toujours qui est-ce que tu es, hein? Ta valeur mondaine, je dirais. La valeur mondaine, chers amis, va passer. Ta valeur spirituelle va rester. pour l'éternité. Prenons du temps pour construire notre valeur spirituelle. André. Le lendemain, Jean était avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu ? » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent donc, virent où ils habitaient et restèrent là avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux, qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de s'en rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Les théologiens, en général, disent que André était l'aîné, parce que c'est lui qui a fait toutes les premières démarches, qui a suivi Jean, qui a amené Pierre. On n'a pas de texte écrit, enfin voilà, il n'y a pas d'âge dans le texte, mais... Oui, tu peux continuer. Alors, ce matin, un petit tour d'horizon avec André. André, ce qu'il vit, ce qu'il fait, et ce qui reste. André était un disciple de Jean le Baptiste. Il passait du temps avec Jean le Baptiste. Hein? En résumé, Jean Baptiste a commencé à prêcher juste 6 mois avant Jésus, à peu près, à la louche comme ça, hein? Et Jésus a suivi. André était un disciple de Jean. Alors, Jean, c'était qui ? Jean était vêtu de vêtements de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour nouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Notre texte rajoute « Saint-Esprit et de feu. » André était disciple de Jean le Baptiste. Vous pensez que c'était facile d'être disciple d'un mec comme ça ? C'est pour ça que j'ai mis ces versets. Se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il me semble, quand on lit un peu les textes, Jean-Baptiste était plutôt un sauvage. Presque. Mais quel prédicateur ! Quel prédicateur ! Il a réveillé du monde. Pardon ?
À en perdre la tête.
Oui. Oui, alors dans ce cas, on peut finir la pointe avec Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, je trouve énorme. Il a réveillé plein de monde et le pauvre. Tout le monde l'a quitté. En prison, pourquoi est-ce qu'il se pose plein de questions, qu'il ne comprend plus rien ? Mais lui, il était... voilà, des milliers de gens venaient l'écouter. Lui, il dit, c'est lui, suivez-le. Et tout le monde se barre. Il se retrouve seul. Et quand je lis les textes, j'ai fait un coup comme ça la biographie de Jean-Baptiste, j'ai beaucoup aimé, parce que quand je lis ces textes sur Jean-Baptiste, vous comprenez qu'en prison, il est paumé, le gars dans sa tête. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui se passe, enfin ? Je ne comprends plus rien. Mais quelle réponse de Jésus ? Hein ? Si je suis maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui restera dans notre vie ? Que dit Jésus de Jean ? Le plus grand des prophètes. Pourtant, c'était de courte durée, hein. Très court son ministère. Son travail est très court. Quand on n'arrive pas devant Dieu, qu'est-ce que Jésus dira de toi et de moi? C'est ça la question que j'aimerais laisser ce matin. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ?» Ils lui répondirent, « Ah oui, ce qui signifie maître, où habites-tu ?» Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent donc virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Le texte ne dit pas où. Il semble que Jésus était aussi quand même nomade. Mais Jean dit, suivez-le. André et Philippe obéissent à Jean. C'était des vrais disciples de Jean, le Baptiste. Ils ont vraiment suivi d'abord Jean, et après ils ont suivi Jésus. Sans chercher midi à 14h, sans se poser 36 000 questions. Petit appel ce matin, hein. Si quelqu'un te dit de faire confiance à Jésus-Christ, tu le fais. André et Philippe ont vraiment obéi à Jean. Jean leur a dit, c'est Jésus-Christ le seul Messie, le seul qui peut le sauver. Le crois-tu? Le croyons-nous? Oui. Alors ils habitaient où? Le texte dit Bethsaïda. Dans la maison de André et de Pierre à Bethsaïda. Alors c'est drôle, parce qu'il y a d'autres textes qui disent qu'ils habitaient à Capernaum. Voilà. Alors petite parenthèse pour ceux qui aiment la géographie, je pense qu'ils avaient sûrement deux maisons. Parce que Capernaum, c'était vraiment au lac. Donc ils avaient deux endroits d'habitation. Sûrement, voilà. Oui. Quand vous lisez un texte biblique, essayez toujours, je trouve, c'est vivant, de voir qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qui se passe dans le texte pour que le texte reste vraiment vivant. André, je ne sais pas quel titre vous donneriez à André. Pour moi, c'est un peu l'évangéliste. Et comme vous préparez, enfin en été, il y a eu des révélations dans le coin aussi, je me suis dit, c'est un bon exemple. André, l'évangéliste. André, le frère de Simon, Pierre était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie !» Ce qui veut dire le Christ, et le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Toi, suis-moi !» Philippe était originaire de Bethsaïda, ville d'André et de Pierre. André, il a rencontré Jésus. On ne sait pas pourquoi, hein. Peut-être aussi par obéissance à Jean le Baptiste. Il a cru que Jésus est le Messie. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite derrière? Il ne peut pas se taire. Est-ce que tes voisins savent que tu aimes Jésus? André ne pouvait pas se taire. Il est rentré à la maison. Il a rencontré son frère, il dit, et tu viens avec moi, et je te montre qui est Jésus. Évangéliste, il a fait quoi? Il n'a pas fait grand-chose, il a pris la personne et l'a amené à Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, je me dis dans le magasin, si je peux donner envie à quelqu'un d'ouvrir la Bible, il me semble que j'ai déjà gagné une grande part. Encourager les gens, donnez-leur d'aimer la lecture de la Bible. Si quelqu'un aime lire la parole de Dieu, chers amis, mais il trouve tout. Alors bien sûr, il faut la lire pour donner envie aux autres aussi de lire, bien sûr. Un évangéliste que j'ai beaucoup aimé, Billy Graham. Petite anecdote, à 17 ans, j'ai eu l'occasion, privilège, d'entendre Billy Graham en Suisse. Le stade, un stade rempli 40 000 personnes. Pour moi, gamin, c'était faramineux, ça. C'était la chorale qui se lève, tiens, 500 personnes, tiens, qui chantent. Le jour d'après, on achète le journal pour voir ce qu'il en dit, ce que le monde en dit. Eh bien, à l'appel de Billy Graham, ce jour-là, se sont levées 1100 personnes. Mais ce que j'aime beaucoup de Billy Graham, Ça, il le dit clair et de manière forte, il dit, chers amis, c'est pas moi. C'est toutes les mamies qui ont prié. Quand je lis des choses sur Billy Graham, je trouve cet homme vraiment humble. J'ai lu un peu à droite à gauche. Il dit toujours, Dieu m'utilise juste. Voilà. Mais si les gens viennent, et surtout s'ils prennent une décision pour Christ, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes derrière qui ont prié et qui ont témoigné. Vous savez pourquoi je peux dire ça de Billy Graham ? Eh bien, dans un autre livre, j'ai lu que Billy Graham, malgré qu'il est un puissant prédicateur, il était, savez-vous que jusqu'à la fin, il a donné ses messages à corriger à trois de ses collègues. Fou ça, hein? Franchement, quand vous êtes un prédicateur de cette trempe-là, donnez votre texte à un autre qui prêche mille fois moins, parce que c'était lui le prédicateur. Chapeau. Et je pense que c'est pour ça que Dieu l'a aussi utilisé comme ça. Que Dieu l'a béni. Parce que c'est un homme qui a prêché partout. Et on ne sait pas pourquoi, j'étais à Paris, je ne sais pas si quelqu'un d'ici a été à Paris, quand j'étais à Paris-Bercy, aussi en France, je ne sais plus dans quelle année, il y a longtemps. On a eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois, vraiment chouette. André, qu'est-ce qu'il a fait? Billy Graham, qu'est-ce qu'il fait? Simplement dire aux gens, votre seul saint, Jésus-Christ. Le jeune homme avec sa sauge au magasin, moi je dis, il y a une solution, Jésus-Christ. Je n'ai pas dit qu'il y ait beaucoup plus. Hein. Quelle rencontre de Jésus maintenant avec Pierre, son frère. Mettez-vous un peu, mettons-nous un peu dans la peau d'André maintenant. André était tout content d'amener sa famille à Jésus-Christ. D'accord ? Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il lui dit, il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda, tu es Simon, fils de Jonas, tu vas être appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. La première rencontre de Jésus avec son frère, Jésus se focalise sur son frère et oublie André, pratiquement. Au fond, c'est ça le travail principal de notre vie, c'est de nous faire oublier. Est-ce que je l'accepte? J'aurais aimé savoir, voir la réaction d'André. Jésus n'a pas changé le nom d'André. Il s'est préoccupé de Pierre. Et en réalité, ce jour-là, chers amis, André le premier est devenu le second, et Pierre est devenu premier. Dans tous les textes, Pierre est devant. Est-ce que j'accepte la place que Dieu me donne? Je partage ça, c'est parce que j'ai eu ces mêmes questions avec Excel, hein, avec le magasin. Est-ce que j'accepte, Dieu, même si Dieu permet que ça ferme? Ou est-ce que je m'accroche à une étiquette, à ce que je fais? André ne réagit pas. Il accepte. André signifie virilité, Pierre signifie Pierre ou rocher. Céphas signifie rocher. Dieu peut changer la donne parfois. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Plus tard, Pierre fait quand même partie des apôtres. Jésus est appelé André, Jésus appelle André à le suivre comme disciple. Jean, non, Marc 1,16. Comme il marchait le long du lac, il vit Simon, André, frère de Simon, qui jetait le filet au lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'était le vrai appel au ministère. Son boulot devient second. Ils ont plusieurs fois retourné à la pêche, d'accord? Mais c'est devenu secondaire. Mais Pierre est appelé en premier, et André après. Et après, bien d'autres disciples. Donc tous les deux étaient des pêcheurs professionnels. Tous les deux obéissent pratiquement du mot à mot. Jésus appelle et sans discuter, ils suivent. Petite parenthèse aussi, vous avez remarqué que toute la bande travaille ensemble. En réalité, parmi les 12 apôtres, 5 étaient déjà, on le sait sûrement, 5 étaient des copains. Marrant, hein? Pierre, Jacques, Jean, André et Philippe, oui, Philippe le copain d'André. Hein. Marrant, Jésus a appelé comme apôtre, pour moi, pédagogiquement c'est intéressant, Jésus a appelé comme apôtre une bande qui se connaissait avant. J'aurais aimé les voir les 12 ensemble, parce qu'entre ces 5 et le reste, voilà, on ne sait pas toujours, surtout avec Matthieu qui était PAG avant, ça devait chauffer parfois, j'imagine. Oui. André se rend quand même toujours utile. Très intéressant. Jésus monta, donc Jean 6, 3. Jésus monta sur la montagne. Il s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus se leva. Il leva les yeux. Vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour donner à manger, pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, les pains qu'on aurait pu pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Vous remarquez quelque chose de drôle là-dedans? Jésus pose une question à Philippe, marrant, et André intervient. Philippe, calculateur, hein, il dit, 200 pains, voilà, 200 cycles, qu'est-ce qu'on fait pour un minimum de 15, 20 000 personnes? Je ne sais pas qu'est-ce que vous déduisez de ce texte. Il me semble, en très court on peut dire, que les deux travaillaient bien ensemble. Vous avez remarqué ça? On ne pose pas la question à André. André vient quelque part au secours de Philippe. Il veut faire quelque chose. D'ailleurs, pas que là, une autre fois aussi. Jésus savait ce qu'il faisait. Une autre chose aussi qui m'a sauté aux yeux dans ce texte, c'est Jésus pose une question, il connaît la réponse. Au fond, il fait quoi Jésus? Dans ce texte, hein? Pardon.
Il le met à l'épreuve,
c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais au fond, il les fait participer au problème. Quand tu pries, tu fais quoi? Quand je prie, mais je participe à l'œuvre de Dieu dans le monde. Jésus leur demande de participer. Jésus les inclut dans le problème. Jésus ne veut pas nous mettre de côté. Jésus veut t'utiliser dans son œuvre. Même si souvent, je ne sers pas à grand-chose. Hein, parce que là, on dit, on n'a pas assez d'argent. Et André vient, ah, j'ai vu 5 pains. C'est n'importe quoi. Au fond, la réflexion d'André, ça peut être n'importe quoi. J'ai vu 5 pains et 10 poissons. Mais le comble, quand on lit la suite, Jésus utilise leurs idées, leurs pensées pour faire sa multiplication. Pour moi, c'est encourageant. Jésus veut nous utiliser dans son œuvre. Même si c'est ridicule. 5 pains de poisson, hein, pour sa vie. Jésus dit, va aller chercher tes pains. Je trouve que c'est encourageant pour nous. Quand je vois les gens vivre près de Jésus, moi, ce qui me stimule là-dedans, c'est Dieu, il pourrait mille fois mieux. Combien de fois j'ai dit Seigneur, franchement, si tu envoies tes anges, tu pourrais faire le travail mille fois mieux que nous. Nous, on a souvent de l'égoïsme, enfin, vous comprenez, notre caractère qui s'y mêle, notre tempérament qui s'y mêle, enfin, voilà, c'est toujours un peu, enfin, toujours clean. Jésus veut t'utiliser, toi et moi, il utilise les disciples pour faire sa multiplication des pains. Est-ce que nous voulons cette semaine prier et dire Seigneur, montre-moi où est-ce que je peux être utile pour toi, être ouvert? Et je trouve, si je prie le matin, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais être utile pour toi, je suis persuadé, Dieu va le faire. Il l'a fait. Une bonne collaboration est utile pour Jésus. Oui. André avec Philippe qui conduisent les Grecs à Jésus. Intéressant, hein. Il n'y a pas beaucoup de textes sur André, mais deux, trois textes qui je trouve vraiment chouettes. Il y avait des Grecs, donc Jean 12, il y avait des Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête des Juifs, Pâques. Ils vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, de Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Philippe vient et le dit à André, puis André, ainsi que Philippe, ils le disent et en parlent à Jésus. Vous remarquez ce qui se passe là? Marrant ça à nouveau. Les Grecs vont vers Philippe. Oh, je ne sais pas pourquoi, le texte ne le dit pas. Philippe, il peut pas le faire seul, il cherche André. Chers amis, une bonne collaboration amène les choses beaucoup plus loin que chaque chrétien dans son coin. Même s'il faut se mettre d'accord, enfin, voilà, moi je trouve, travailler en équipe, le résultat, c'est que tous ces Grecs vont vers Jésus. Amener les gens, simplement. C'est drôle, hein, la Bible. Philippe et André, ce n'étaient pas des grands théologiens. Et comme c'était au début, je pense qu'ils ne savaient même pas grand-chose de Jésus. Mais nous pouvons dire, quand même aux gens, notre témoignage, il me semble fort, quand même, c'est qu'est-ce que Jésus a changé dans ta vie? Tu as trouvé le pardon? Tu as trouvé l'assurance pour l'éternité? Voilà, c'est les clés de la vie. Et tout le monde a besoin de ça. Intéressant. Oui? Alors, le dernier texte, pratiquement, dont on parle avec André, dont on voit André, dans la Bible, dans Acte 1, 12 à 14. Tous persévérèrent dans la prière, donc tous étaient ensemble dans la salle haute pour prier, et dans cette liste, il y avait marqué, il y avait aussi André. André est présent dans la chambre haute. André est présent quand ils, ensemble, ils prient et qu'ils attendent l'intervention de Dieu. André continue à chercher la communion des chrétiens et à servir, à vivre pour Dieu. Avons-nous une chambre haute comme ça pour nous laisser renouveler? Il n'y a pas beaucoup de textes dans la Bible avec André, mais je trouve chouette. Oui. L'exemple pour moi d'André, très court dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de versets, mais franchement, quelle joie, enfin quelle force dans le fait qu'il cherche à collaborer, à se rendre utile. Et le deuxième grand point, je dirais, quelle force chez André d'amener les gens à Jésus. Pas toujours étaler au magasin, parfois j'entends certains qui essayent d'expliquer la fin du monde. L'autre jour, il y a une dame comme ça, c'est incroyable, elle est revenue. La fille de Sion, c'est quoi dans la Bible et tout. Et tout de suite, elle parlait de Babylone, de Babylone, etc. Combien de fois j'ai dit aux gens, excusez, simplifiez les choses. Essayons pas d'expliquer à notre voisin tout le symbolisme biblique. Si on peut le faire, ceux qui cherchent vraiment. Mais amener les gens simplement à Jésus-Christ. Le seul sauveur du monde, celui qui peut nous pardonner, Jésus-Christ. Et travaillons ensemble pour son œuvre. Et si on le fait, on peut vraiment être utile. Oui? La tradition pour André. J'ai quand même cherché un peu parmi les théologiens. Donc la tradition veut que André ait été évangéliste dans différentes régions du monde. Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Ça, c'est la croix d'André. Donc il semble qu'il est aussi mort crucifié. Et comme il ne se sentait pas digne d'être crucifié sur une croix comme Jésus-Christ, ça c'est l'histoire maintenant. Sa croix était plutôt en forme d'X. Il a demandé, il ne voulait pas la même croix que Christ. ne se sentait pas à la hauteur. Ça, c'est l'histoire. Mais l'histoire dit, enfin, les théologiens disent aussi quand même, quelqu'un qui a laissé des traces, très simples, des traces comme témoin de Christ. Voulons-nous, peut-être cette semaine, dire, Seigneur, où est-ce que je peux être utile pour toi? Où est-ce que je peux collaborer avec quelqu'un pour servir? Et pourquoi? Mais pour simplement amener les gens à Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit faire l'œuvre dans le cœur, transformer des vies. C'est pas moi, c'est pas moi qui peux convaincre les gens, c'est pas moi qui peux... Voilà, je peux juste dire, comme cette semaine avec ces jeunes, tu as des problèmes à la maison? Oui, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Le seul sauveur, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce témoignage d'André. La Bible en parle très peu et pourtant, quelle trace. Seigneur, combien c'est énorme, je trouve. Chaque fois, il s'efface quelque part pour ramener les gens vers toi, vers d'autres. Merci aussi pour le fait qu'il a accepté que son frère le dépasse, soit premier, et que lui soit nommé plus loin. Merci. Aide-nous que nous puissions suivre de tels exemples et être utiles cette semaine, Seigneur, là où tu nous places cette semaine. Donne-nous d'être des témoins de toi. Donne-nous d'être, d'attirer les gens vers toi. Et que nous puissions nous effacer. Merci. Amen. Ok, il y a le temps là.